il est un des experts reconnus de la finance mondiale, ceux dont l'avis est prescripteur. Il avait notamment anticipé la crise de 87 et celle de 2007 également. Le plaisir de recevoir ce matin en direct de Zurich, Marc Faber, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h,
Marc Faber. C'est mon plaisir.
Vous êtes d'origine suisse, basé à Hong Kong.
Tout à fait.
Vous avez un site internet qui est un des plus consultés dans le domaine, avec un nom qui marque les esprits, un nom qu'on n'oublie pas, gloomboomdoom.com, ce qui veut dire en gros morosité, boom et funeste destin. D'ailleurs, vous avez, vous avez un surnom qui est celui de Mr. Doom. Est-ce qu'on vous appelle encore comme ça ?
Oui, encore, oui, toujours.
Et vous aviez frappé les esprits, Marc Faber, il y a tout juste 2 ans. C'était sur cette antenne, quand vous aviez annoncé la probabilité d'une guerre d'ici 5 à 10 ans, initiée par les États-Unis, en passe de perdre leur statut de superpuissance. Aujourd'hui, vous diriez la même chose ?
Oui, exactement. Moi, je crois que la situation économique ne va pas s'améliorer beaucoup dans le monde. Et d'habitude, on a remédié une situation mauvaise dans l'économie en commençant ou engageant dans une guerre.
Et
les tensions géopolitiques ont augmenté, c'est tout à fait clair.
Cette guerre aura lieu éventuellement sous quelle forme, Marc Faber ?
Ça, c'est difficile à dire, mais de toute façon, c'est clair que la Chine dépend du pétrole du Moyen-Orient et que les pays de l'Ouest ont l'intention, ou ça, il semble qu'ils ont l'intention de nouveau contrôler l'offre du pétrole qui sort, qui départ du Moyen-Orient. Et je crois que ça donnera ça augmentera les tensions entre la Chine et les États-Unis. Ça sera peut-être pas une guerre conventionnelle, mais ça sera peut-être une guerre de guérilla ou dans des pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan.
Donc il y aura un aspect militaire, c'est ce que vous nous dites.
Oui, ça sûrement, oui. D'ailleurs, dans le Moyen-Orient, on a déjà, disons, une région qui est en train d'exploser, c'est tout à fait clair.
Plus que les États-Unis, j'allais dire actuellement, c'est l'Europe qui retient l'attention aujourd'hui. Allons-y
tout
clairement,
fait.
Est-ce que l'euro est condamné, Marc Faber ?
Oui, il est condamné d'une façon, c'est je crois qu'il y aura des pays qui devront quitter la zone européenne, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, et peut-être tous les pays devront quitter et il y aura seulement un pays dans l'euro, ça sera l'Allemagne.
Mais ça, c'est une boutade. C'est quasiment une plaisanterie, Marc Faber. On ne peut pas tourner comme ça en Europe.
Oui, pourquoi pas. À mon avis, la situation économique en Europe serait meilleure sans un euro.
Donc il faut que, à part l'Allemagne, dites-vous, mais il faudra nous expliquer encore pourquoi, tous les pays européens actuellement devraient sortir de la zone euro. Alors pourquoi l'Allemagne pourrait-elle y rester ?
Oui, à mon avis, l'Allemagne a pas une situation financière excellente, mais sûrement la situation économique en Allemagne est beaucoup meilleure que dans d'autres pays. Et le problème de l'Europe, et d'ailleurs aussi des États-Unis et beaucoup d'autres pays à l'Ouest et au Japon, c'est un surendettement. C'est-à-dire l'endettement de ces pays s'est accru, a augmenté beaucoup plus que le produit brut domestique dans les 20 ou 30 ans passés. Et on a simplement trop de dettes. Et on a beaucoup trop d'obligations futures pour les demandes sociales.
Concrètement, l'euro, la zone euro est condamnée d'ici combien de temps, Marc Faber ?
Ça dépend des dirigeants de la politique et de quelle façon ils veulent, disons, diriger l'euro. Mais à mon avis, il y a des pays comme la Grèce qui ont fait faillite. Et il faut réaliser ça. Et ou bien on continue de les soutenir, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste, parce que s'ils ont fait faillite, il y a une raison pourquoi ils ont fait faillite, et alors il faut, disons, adresser ces problèmes.
Et quelle est la recette miracle ? On parle beaucoup de plans d'austérité, d'ailleurs on en a appliqué pas mal, et puis on a des gens comme François Hollande, le nouveau président français, qui parle, lui, plutôt de relance. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Écoutez, moi j'ai à rire quand on parle d'austérité en Europe. Dans l'an 2000, le gouvernement prenait 44% de l'économie. depuis ce temps-là, ça a augmenté de 76% et maintenant, le gouvernement fait 49% de l'économie européenne. C'est ça le problème. On n'a jamais eu de l'austérité. On a toujours essayé de résoudre les problèmes avec encore plus d'intervention du gouvernement. Et une économie est dynamique si elle est soutenue par le secteur privé et non par le gouvernement.
Donc un plan de relance du gouvernement comme le prône François Hollande, c'est quelque chose d'aberrant et de pas crédible pour vous?
C'est une catastrophe. À mon avis, pour relancer l'économie européenne, il faudrait couper le gouvernement, les dépenses gouvernementales de 50%. Et on devrait mettre la plupart des dirigeants à Bruxelles à la porte.
L'Europe, Marc Faber, vous restez avec nous. L'Europe qui est une source d'inspiration pour un éditorialiste, c'est dans la presse romande, Jean-François Moulin.
On a beaucoup parlé d'Europe depuis le général de Gaulle qui imaginait les gens qui sautaient comme des cabris, oui, et parlaient Europe, Europe, Europe. Alors plus sérieusement, enfin en tout cas avec moins de boutade, cette Europe qui sous la plume de l'éditorialiste de La Tribune et de 24 heures joue avec le feu. C'est le titre de l'éditorial. Philippe Rodrigue s'étonne de la propension des 17 membres de la zone euro à vouloir se faire peur, en évoquant des questions à se donner de grands frissons. Tel pays périphérique doit-il être privé de monnaie unique? L'instauration de 2 euros, l'un pour les pays forts, l'autre pour pays faibles, serait-elle pertinente? Le retour à la monnaie arrangerait-il tout le monde? Ce que reproche au fond notre confrère à cette Europe, c'est la lenteur avec laquelle elle prend des mesures nécessaires, privilégiant ses comptes internes. Du coup, les experts redoutent qu'une majorité de Grecs succombe lors des prochaines législatives au charme du drac, ce qui provoquerait une onde de choc à travers l'Europe, à commencer par l'Espagne et l'Italie. Alors comment trouver dès lors dans ces pays de quoi financer des sécurités sociales dignes de ce nom, la santé publique et la sécurité? Et l'effondrement de l'euro pénaliserait-il toute l'économie helvétique? Et notre confrère de s'écrier que l'Europe se ressaisisse et vite.
Vous ne dites pas autre chose d'ailleurs, Marc Faber. Si on prend la Grèce, il y aura des législatives d'ici quelques jours. Quel scénario voyez-vous à l'issue de ces élections pour la Grèce?
Moi, j'ai l'impression que les Grecs, ils veulent naturellement rester dans la zone euro parce que leurs pensions sont payées en euros. Et s'ils quittent la zone, ils auront une monnaie propre qui aura une valeur de 50 à 70% moins que l'euro. Alors ils recevront des bénéfices moins élevés. Mais en même temps, ils veulent pas d'austérité, ils veulent pas couper les recettes, les revenus qu'ils ont de ces pensions. Alors c'est un système qui ne va pas fonctionner. Naturellement, c'est possible que les Allemands continuent à supporter les Grecs, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont le faire pour toujours.
Donc la Grèce va sortir de l'euro cette année.
Oui, ça serait désirable.
Ce serait désirable.
La Grèce aurait jamais eu à être part de l'euro.
D'accord, Marc Faber, enfin d'accord, je retiens votre propos, tout le monde n'est évidemment pas d'accord avec vous. Les banques, évidemment, c'est un des principaux sujets d'inquiétude. Comment refinancer les banques sans endetter encore davantage les États, Marc Faber?
Écoutez, les banques, en principe, ont fait faillite dans l'an 2008. Et le mieux aurait été de les laisser faire faillite, mais les séparer. C'est-à-dire, vous avez une banque domestique avec les dépôts des gens qui ont des épargnes à la banque, et ça aurait été garanti par l'État. Et l'autre, l'activité spéculative, toutes les positions de dérivatifs, ça aurait pu faire faillite, et ça aurait pas eu une influence ou des répercussions significantes pour l'économie mondiale.
Il faut laisser la Grèce faire faillite, les banques aussi. Je comprends pourquoi on vous appelle Mr. Doom, alors. Vous méritez bien votre surnom.
Si vous suivez l'histoire, c'est tout à fait clair que le marché libre et le système du capitalisme est supérieur au socialisme. Et si les gens pensent que le socialisme et les interventions du gouvernement sont désirables, ils auraient dû vivre dans l'Europe de l'Est, en Russie, en Chine, avant que l'éprouvement du communisme et du socialisme s'est passé. C'était une catastrophe complète. Et moi, j'ai visité la Tchécoslovaquie en 1968. J'étais en Russie en 1980, en Chine en 1980, avant le développement du capitalisme et du marché libre. Et les gens étaient extrêmement, et je répète, extrêmement pauvres et misérables. Et à tous les socialistes, je le recommande, s'ils pouvaient revenir dans ce monde, ou même aujourd'hui, qu'ils aillent à la Corée du Nord.
Il y en a peu qui souhaitent y aller, même ceux qui y habitent ont un sort pas forcément enviable. On va peut-être revenir en Suisse quand même, qui est un pays, qui est votre pays d'origine. La place financière suisse vit pas mal de licenciements, et c'est peut-être rien par rapport à ce qui va se passer dans quelques années, on parle de 20 000 emplois. Comment vous voyez l'avenir des banques suisses, Marc Faber ?
Oui, disons, personnellement, moi je suis très négatif sur le secteur financier. Ce qui s'est passé dans les 30 ans passés, c'est que le domaine, le secteur financier, a grandi à un taux beaucoup plus élevé que l'économie. Et le secteur financier a une grandeur disproportionnelle à l'économie. Et on a aussi payé les gens dans le secteur financier beaucoup plus que des gens dans d'autres secteurs de l'économie. Et ça va reculer, et à mon avis, ça va reculer encore pendant des années. Et le secteur financier sera pas un secteur de croissance.
Donc les milliers,
ça va continuer à reculer.
Donc les milliers de licenciements que certains nous promettent, vous y croyez dans le secteur financier helvétique ?
Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il y aura encore beaucoup de places dans le secteur financier qui vont être perdues permanentement.
On a cette idée qui a été débattue et même lancée par quelques politiques, en tout cas accompagnée par quelques politiques, Stéphane Delery, faire ses emplettes, on parle de la Suisse toujours, hein, avec un fonds souverain.
Oui, l'idée que la Banque Nationale Suisse crée un fonds souverain, un outil pour défendre le franc face à l'euro, eh bien cette idée fait son bonhomme de chemin. Des politiciens assez en vue du PDC, du Parti Socialiste, de l'UDC ont soutenu cette idée ces derniers jours, avec un exemple souvent cité, celui de la Norvège. Et ce matin, le Blick nous propose une liste de courses, tout ce qu'on pourrait se payer avec 100 milliards de francs, titre le Blick. 100 milliards, c'est la somme dont le fonds souverain suisse pourrait être doté. Alors, parmi les achats suggérés par le journal, il y a par exemple 5% des actions de BMW ou de VV, 5% de Procter & Gamble, de Siemens ou de Microsoft. Et tant qu'on y est, pourquoi pas 5% du géant Apple, suggère le Blick. Autant de participation qui rapporterait en plus de l'argent. Mais c'est pas tout, le fonds souverain suisse pourrait aussi se payer le port de Hambourg, un circuit automobile en France, ou l'Empire State Building, un bâtiment qui vaut 1,6 milliard de francs, peanuts. La seule chose que la Suisse ne pourrait pas se payer avec son fonds souverain, c'est la Station Spatiale Internationale, écrit le Blick, un peu cabotin. Cette station vaut 120 milliards de francs et surtout, elle ne rapporte pas un centime.
Ce ne serait pas un bon investissement. Que pensez-vous de cette idée que la Suisse investisse dans un fonds souverain ?
Oui, en principe, c'est peut-être une bonne idée. Mais la question, c'est que si la Banque Nationale Suisse est qualifiée pour gérer un fonds souverain, puisqu'ils ont vendu l'or, quand l'or, le prix d'or était en dessous de 300 $, je suis pas sûr que leur timing est excellent.
La BNS ne fait pas tout juste. Le franc fort, pour vous, finalement, c'est pas un problème.
C'est pas un problème pour moi, non.
Pourquoi ?
Parce que si vous contemplez les pays qui ont une industrie d'export forte, vous voyez que ce sont des pays comme l'Allemagne, le Japon, la Suisse. Et tous ces pays avaient des valeurs, des monnaies fortes. Tandis que, par exemple, un pays comme Zimbabwe a eu une monnaie catastrophique et ils n'ont pas d'export non plus. Alors, en général, une monnaie forte oblige les entrepreneurs d'être extrêmement productifs et effectifs dans la production. Et le coût de main-d'œuvre en Suisse, c'est pas un facteur important dans le produit d'export. Par exemple, une montre. Le coût de manufacture de la montre, de production, c'est peut-être 1 000 francs. Elle se vend pour 10 à 20 000 francs dans les magasins étrangers.
Alors gageons que tous les entrepreneurs qui nous écoutent ne sont pas forcément d'accord avec vous ce matin. Mais c'est...
Oui, naturellement, ils ne sont pas d'accord parce que les entrepreneurs, ils vont toujours se complaindre sur quelque chose. Et c'est toujours la monnaie.
D'accord. Bon, dans la presse alémanique, toujours, avec vous, Stéphane Delory, il y a un Anglais qui décortique la Suisse et tous les clichés.
Oui, il s'appelle Deacon Bewes. Il a écrit, il y a 2 ans, un livre qui s'est, paraît-il, arraché dans le monde anglo-saxon. Il s'appelle Swiss Watching, c'est le titre. Ouvrage traduit désormais en allemand. Et dans ce livre, eh bien, il décortique les clichés helvétiques. Il les met en question avec critique, précision et beaucoup d'humour, nous dit ce matin le Tagesanzeiger. Alors, la liste est longue. Le Gruyère, les Mental, l'horlogerie, les banques, le Rütli, les bunkers, le fusil d'assaut, le couteau suisse, la ponctualité, la bureaucratie, l'esprit refermé, les plans pour l'usage des machines à laver, vous savez, dans les immeubles, les vaches, les cloches, mais aussi le LSD, l'aide au suicide. Il relève des contradictions aussi. La Suisse est, selon l'auteur, un des plus attachés. Le Suisse est un des plus attachés à sa sphère privée, mais il se laisse largement surveiller par l'État. Le Suisse est innovant tout en étant conformiste. Il accepte le partenariat homosexuel tout en interdisant les minarets. Bref, le Britannique a aussi de la compréhension pour notre pays. Nous sommes 2 pays insulaires, écrit-il. Deacon Bewes, le Swiss Watcher, y va aussi de sa définition des Suisses. Ils sont modestes et ont peur du changement.
C'est vrai que les Suisses ont peur du changement, Marc Faber.
Écoutez, nous sommes une société très libre et nous avons des traditions. Je ne crois pas qu'on a résisté les changements. Le pays a changé beaucoup et s'est adapté à la technique moderne, etc. Et moi, j'ai non plus l'impression que c'est un pays insulaire. Parce que je voyage beaucoup, j'ai vu aussi d'autres pays qui sont encore beaucoup plus insulaires que la Suisse.
Effectivement, il y en a, des vraies îles d'ailleurs. Vous qui êtes financier, expert reconnu, on va parler d'une question très pratique, celle de Facebook, Jean-François Moulin, dont l'étoile commence un peu à pâlir. Il existe des déçus de Facebook.
Oui, alors l'entrée en bourse ratée du site aux milliards d'utilisateurs revigore les critiques de son fonctionnement ou sur son fonctionnement fermé et sa logique commerciale. C'est ce que constate l'intéressante enquête de l'Hebdo consacrée à cet ami qui vous veut trop de bien. L'évolution des reproches contre Facebook est remarquable, explique Luc Debrenne. Aujourd'hui, les critiques se font plus précises et surtout apparaissent des déçus de Facebook qui prennent leur distance, comme cet ex-accro qui compare Facebook à une drogue. Ce jeune graphiste lausannois alimentait tous les jours 2 comptes, un personnel, un professionnel, avec 1500 amis. Alors il a voulu arrêter. Pour cela, il a demandé l'aide d'une amie, car il n'est pas facile de s'en dégager. Et dans les faits, on peut toujours réactiver son compte avec son mot de passe. Facebook, c'est comme le dealer du coin, toujours là pour vous attendre. Il y a la victime, celle qui se fait voler son identité, le libéré, celui qui a compris que pour la productivité au travail, Facebook était une nuisance. Le désenchanté qui reconnaît que Facebook ne lui apportait plus rien. Toutes ces petites informations genre Choupinet est parti en vacances ou Mimi a mis au monde un beau bébé de 3,5 kg. Ce même désenchanté qui conseille d'écouter les réflexions d'Alix Turk, l'ancien président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur les dangers qui menacent la sphère privée. Ça fait réfléchir, dit-il. Certes, quand même, ce profil d'autres réseaux paraît-il plus spécifique.
Facebook qui fait son entrée en bourse. Vous investiriez dans Facebook, Marc Faber ?
Écoutez, en ce qui concerne les investissements, il n'y a pas une société qui est bonne ou mauvaise. Mais il y a un prix qui est bon pour acheter et il y a un prix qui est bon pour vendre. Et à mon avis, Facebook, encore aujourd'hui, est surévalué. C'est un titre qui ne m'intéresse pas pour investir.
Ben voilà, un conseil très pratique de votre part. Il y en a beaucoup qui vous écoutent ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct.
Oui, écoutez, c'est mon grand plaisir et je m'excuse que mon français n'est plus parfait, mais depuis 40 ans, j'habite en Asie et j'ai pas beaucoup l'occasion de parler français.
Mais on vous félicite pour votre français qui est parfaitement compréhensible. On rappelle le titre de votre
Merci
blog, gloomboomdoom.com. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci beaucoup.